Thaïs Dizel. À 17h04, c'est la suite. C'est la dernière heure d'ailleurs de Braise au pluriel avec pour invité en direct en ce moment Gilles Chazot. On a évoqué, si vous étiez en notre compagnie, vous le savez, on a évoqué ce livre dont il est l'auteur qui s'appelle La belle histoire des merveilles de la Terre avec énormément de photos, de sites connus ou moins d'ailleurs, et qui sont tous magnifiques et il nous explique de manière scientifique et géologique pourquoi oui. Ces lieux sont aussi beaux. Le livre est structuré en différentes périodes. On va peut-être s'arrêter pendant un instant dans la période du Cénozoïque, et on va s'intéresser à un site qui est absolument extraordinaire, qui est photographié bien sûr dans le livre, que beaucoup de Bretons connaissent, parce que beaucoup de Bretons ont été ou rêvent d'aller en Irlande, c'est la Chaussée des Géants. Alors quelle est l'histoire de ce site extraordinaire irlandais, la Chaussée des Géants ?
Cette histoire, elle est volcanique, puisqu'elle nous transporte il y a environ 60 millions d'années. À cette époque, l'Atlantique Nord n'existe pas encore. Vous savez que les océans se forment lorsque les continents se fracturent et se séparent. Vous prenez une masse continentale. Cette masse continentale, elle se fracture et elle se sépare en deux. Et entre les deux, naît un océan. C'est comme ça qu'est né l'Atlantique. Et il y a 60 millions d'années environ, le Groenland s'est séparé de l'Europe du Nord. Et cette séparation s'est accompagnée d'un volcanisme important. Ce volcanisme, il a permis la mise en place de grandes coulées de lave à la surface. Et une des particularités de la lave, quand elle est de composition basaltique, c'est celle qui sort par exemple d'un volcan bien connu comme l'Etna, c'est quand cette lave, elle se refroidit, quand une coulée de lave se refroidit lentement, il y a des fractures qui apparaissent à l'intérieur et qui délimitent des colonnes qui ont entre 4 et 8 côtés. Alors on peut, pour avoir une idée de ça, tout le monde a vu déjà une flaque de boue où l'eau s'est évaporée. La boue a séché et quand elle sèche, elle se craquelle et elle délimite des petites formes géométriques qui ont aussi entre 4 et 8 côtés. Eh bien la lave, c'est la même chose, sauf que ça forme des prismes dans les trois dimensions de l'espace. C'est ce qu'on appelle les orgues basaltiques. Et la Chaussée des Géants, c'est ça, ce sont ces coulées de lave anciennes d'il y a 60 millions d'années qui ont été dégagées par l'érosion et qui permettent, qui laissent apparaître aujourd'hui ces orgues, ces prismes de roches qui se sont formés lors du lent refroidissement de la lave, de ces coulées de lave à la surface. Donc ça nous ramène à des événements violents, des événements volcaniques d'il y a 60 millions d'années. Et l'érosion nous a dégagé ces coulées de lave et nous donne à voir aujourd'hui ces magnifiques escaliers d'orgues de roches volcaniques qui constituent ce site fameux. On peut voir des orgues volcaniques dans le Massif central aussi. Certaines coulées, certains anciens lacs de lave du volcanisme du Massif central ont aussi été dégagés par l'érosion et nous permettent de voir ce phénomène des orgues basaltiques toujours aussi spectaculaires.
Alors, en feuilletant votre livre, on peut, comme ça, on passe à travers les millénaires.
Hein, oui, évidemment, les millions et les dizaines de millions d'années.
Les dizaines de millions d'années. On peut se retrouver, par exemple, en Cappadoce, hein, en Turquie, on peut se retrouver. Ah, il y a quelque chose qui a attiré tout de suite mon regard, parce que là aussi, je pense que c'est quelque chose que l'on a vu, pas forcément dans la vraie vie, puisque c'est loin, c'est en Australie, mais c'est Uluru. Enfin, Uluru, c'est ce que les Australiens appellent Ayers Rock. C'est une espèce d'énorme monolithe orange en plein désert. Celui-là, on l'a là aussi. Si, on le connaît par les images. Comment il s'est formé, celui-là ?
Ça aussi, c'est une histoire très ancienne. Et en fait, c'est l'histoire de l'érosion d'une chaîne de montagnes. Uluru, ce sont des sédiments. Donc, vous imaginez une chaîne de montagnes qui a été érodée. Toutes les chaînes de montagnes à la surface de la Terre finissent par disparaître. L'Himalaya, dans quelques dizaines de millions d'années, n'existera plus. Et elle aura été érodée par le vent, la pluie, les glaciers. Et tous les produits d'érosion des chaînes de montagnes sont transportés par les fleuves, les rivières, et vont se déposer dans des bassins sédimentaires. C'est ce qui s'est passé au centre de l'Australie. Il y a eu une chaîne de montagnes qui a été démantelée par l'érosion. Et les produits, les grains, les minéraux des roches qui ont été arrachés dans cette chaîne de montagnes ont été déposés en couches sédimentaires. Ces couches sédimentaires ont ensuite été compressées, ont été déformées. Alors les sédiments se déposent toujours horizontalement, mais la tectonique ensuite a verticalisé ces couches sédimentaires et les a érodées petit à petit après, pendant des dizaines de millions d'années. Et aujourd'hui, ce qui apparaît, ce petit qui n'est pas petit d'ailleurs, ce qu'on appelle un Inselberg, cette masse rocheuse au milieu des plaines, c'est une zone un petit peu plus dure, un peu plus résistante de ces sédiments qui ont été préservés par l'érosion. Toutes les roches autour ont été enlevées. Et cette zone
est bien isolée au milieu d'une plaine.
Tout à fait, oui. Mais ça veut dire que il y a sans doute des fluides qui ont circulé dans ces roches et qui ont cimenté un peu plus les grains de façon rendant cette roche sédimentaire un peu plus résistante. Et donc toutes les roches autour ont été érodées. Et cette zone-là est restée préservée de l'érosion. Et ce sont donc des couches sédimentaires verticales. Quand on s'approche, on voit ces sédiments verticaux. Et donc, c'est une histoire extrêmement ancienne qui nous amène à reconstituer la formation d'une chaîne de montagnes, puis sa disparition, le transport des éléments, le dépôt de sédiments dans un delta d'un grand fleuve, et puis cette déformation des sédiments, puis l'érosion pendant des millions et des millions d'années jusqu'à arriver au paysage actuel. Donc là encore, c'est une histoire qui a plusieurs centaines de millions d'années que l'on voit à partir de ce paysage quand on sait l'interpréter, quand on sait le lire.
Alors quand on voit tous ces paysages qui sont regroupés dans votre livre, Jules Sazot, on se dit, bon, c'est uniquement des rochers. Non, c'est pas que des rochers, vous évoquez aussi l'élément liquide. Par exemple, vous allez vous plonger dans le lac Baïkal, vous vous intéressez aux chutes d'Igassou. Là aussi, l'eau, elle est présente.
L'eau, elle est présente parce que c'est un... Alors d'abord, c'est un aspect essentiel de la vie sur Terre, bien sûr. La vie est apparue dans les océans, sur Terre. Et l'eau est indispensable au développement de la vie. C'est aussi un puissant agent d'érosion. Alors l'eau en elle-même n'érode pas les roches, mais l'eau transporte des particules. Et c'est ces particules, lorsqu'elles sont transportées par l'eau, qui vont abraser les roches et qui vont participer à la destruction des chaînes de montagnes. L'eau peut aussi exister sous forme de glace à la surface de la Terre. Et là aussi, les glaciers sont des formidables agents d'érosion. Il n'est qu'à penser aux fjords de Norvège, par exemple. Ces fjords de Norvège, ils ont été creusés par d'énormes glaciers. Les glaciers sont des bulldozers qui écrasent les roches devant eux, qui les broient et qui créent d'énormes vallées dans les montagnes. Et donc les fjords de Norvège ont été formés par l'avancée de ces glaciers. Donc l'eau est un aspect fondamental dans le façonnement des paysages à la surface de la Terre. Le vent, l'eau sont des agents d'érosion qui font que la Terre est aujourd'hui ce qu'elle est. La plupart des sédiments, par exemple, ou des roches magmatiques, quand on voit un granit à la surface de la Terre, un granit, c'est un magma qui a refroidi à plusieurs kilomètres de profondeur. Donc si on le voit aujourd'hui à la surface et qu'on peut marcher dessus, comme tous les granits bretons par exemple, les granits bretons se sont formés à plusieurs kilomètres de profondeur, et si on les voit aujourd'hui à la surface, c'est que tout ce qu'il y avait au-dessus a été enlevé. C'est-à-dire qu'on a enlevé des kilomètres de roches au-dessus de ces granits, et c'est l'érosion, c'est l'eau, la pluie, le vent qui ont enlevé ces roches au fil des millions d'années pour faire apparaître ces granits à la surface du sol aujourd'hui.
Alors dans le livre, vous terminez par une bibliographie, un index de nombres propres et un glossaire de manière à s'y retrouver. Ça, c'est le côté, c'est votre côté enseignant qui est ressorti.
Oui. Il y a beaucoup de termes compliqués en géologie auxquels les gens sont pas forcément familiers. Donc ça leur permet un petit peu de mieux comprendre. Le texte est accessible par tout le monde. Hein, c'est de la vulgarisation, mais il y a quand même des termes un petit peu techniques que l'on peut mieux comprendre à travers le glossaire.
Effectivement, alors, il y a subduction, bon, alors, stalactite et stalagmite, ça va.
Ça va,
tectonique,
oui.
Tectonique, bon, on peut s'y... Il y a zircon, déjà, dans l'inscription qu'on est dans un film de science-fiction, non, c'est pas ça.
C'est pas ça, c'est un minéral, et c'est un minéral qui est très important, parce que c'est un minéral qui nous permet de dater les roches, et bien sûr, l'âge en géologie. La géologie est avant tout une science historique, donc connaître l'âge des roches, c'est pouvoir reconstituer l'histoire de la Terre, donc c'est un phénomène essentiel en géologie.
Et puis il y a dans ce tableau, c'est des termes, il y a également le tableau des différentes époques. Je vois par exemple le Cénozoïque, on se dit, bon ça y est, c'est facile. Ben non, parce qu'il se divise en quaternaire, néogène et paléogène, qui se divise eux-mêmes en holocène, pléistocène, pliocène, miocène. Et bon, j'arrête là parce que ça fait peur. Mais donc on peut effectivement faire le malin, lire le tableau avant l'apéro et on éblouit les potes. Quoi,
absolument, absolument. Si vous arrivez à replacer ça dans une conversation,
c'est
ça peut être très impressionnant.
C'est pas facile.
Mais c'est pas facile.
C'est pas gagné.
je vous l'accorde.
Ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, je rappelle donc que ce livre sorti aux éditions de Buck s'appelle La belle histoire des merveilles de la Terre. Il est signé Jules Chazot, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous pendant un petit moment de cet après-midi. Le livre, c'est un beau livre, donc on a beaucoup insisté sur la manière dont c'était fondé, les paysages, donc secret, par exemple, l'opale ou le diamant.
Oui, il y a aussi des minéraux, et c'est accessible pour tous.
Je vois cette montagne écossaise, Old Man of Stor, le géant écossais, qui est absolument magnifique.
C'est aussi les roches volcaniques, basculées par l'érosion et la tectonique.
Oui. Donc, énormément de photos de paysages qui font rêver, et puis l'explication, la raison pour laquelle ces paysages sont tels quels. Gilles Chazot, merci d'être venu.
Merci
en direct
de votre invitation.
Avec nous. À une prochaine.
Merci, au revoir.
Au revoir.
16h-18h, Braise au pluriel, Michel Pagès.
Etienne Dao, ce samedi après-midi sur France Bleu, Brésil, 17h18.
16h-18h, Braise au pluriel, Michel Pagès.
Avec un nouvel invité, ça va vite hein, aujourd'hui. Surtout que les invités, ils discutent dans le couloir. Il y en a un qui sort, il discute avec l'autre qui attend son tour. Après, il faut les attraper par les cheveux. Ça a été facile avec Julien pour l'amener en studio. Julien Cuvillier, bonjour.
Bonjour Michel.
Alors, on connaît, c'est l'homme de la lyre, je vous le disais tout à l'heure en préambule de cette émission qui a retrouvé en fait ce qu'était une lyre, qu'il utilise parfois électrifiée d'ailleurs, et qui joue un petit peu partout. Il y a plein d'aventures. La dernière fois qu'on s'était croisé, c'était au festival Interceltique, et ben forcément c'était 2019 hein, puisque en vain il y en a pas eu. C'était, tu jouais avec Carlos Núñez hein, d'ailleurs. Il y a eu pas mal de jolies rencontres hein, depuis quelques années qu'on se connaît. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on s'est rencontrés. Mais toi alors, t'as rencontré un sacré paquet de gens. On va raconter ce qui s'est passé en fait hein, depuis qu'on s'était vu depuis 2019. Il y a plein de choses, plein de rencontres. On commence par les concerts peut-être.
Allez,
des concerts forts, donc des grands souvenirs.
Oh oui. Donc du coup, effectivement, il y a eu ce concert à l'Interceltique de Lorient pour l'année de la Galice avec Carlos Núñez. Un moment très très fort, vraiment très intense, avec un duo avec Abraham Cupuero et Pancho Alvarez sur scène, et avec un chant en gaulois. Donc du coup, qui était composé à partir de plaques de défiction, donc ce sont des inscriptions gallo-romaines qui étaient jetées par les Gaulois, donc dans des puits, dans des sources, dans les fontaines, et qui étaient gravées sur des plaques de cuivre, d'or parfois. Et à partir de ces mots-là, j'avais recomposé une ode aux dieux, et que j'ai pu chanter donc lors du grand concert de Carlos Núñez. Ouais.
Alors ça, c'est un souvenir fort. T'as des souvenirs aussi devant des publics de hardeux qui devaient être surpris de voir un gars qui ressemble à un barde avec une lyre à la main, mais qui sont surpris agréablement en fait. Ça s'est bien passé.
Motocultor et Motocultor Fest, c'est une scène où m'avait invité Alan Stivell du coup. C'est le festival de métal tout simplement. Et c'était un moment qui était fort à deux niveaux. C'était parce qu'il y avait énormément de monde et ils étaient particulièrement en forme. Et c'était un moment assez fort aussi puisque la lyre et l'harpe se rencontraient.
Les deux instruments redécouverts oui. À quelques décennies d'écart certes, oui. Mais effectivement voir pour la première fois sur scène ces deux instruments jouer.
Et du coup c'était un moment vraiment très très fort devant quelques 8000 énervés. C'était vraiment 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 chouette, ouais. Donc du coup voilà, et sur ce titre Celtica qui est un morceau qui est très important pour moi aussi.
Celtica, je pense qu'on l'écoutera dès que ce sera possible. On est en train de nous le préparer. On continue à évoquer tout ce qui s'est passé. Alors il y a aussi le disque de ton groupe.
Mm-hmm, tout à fait.
Arbard.
Tout à fait, Arbard. Oui. Donc du coup, des hommes, des rois et des dieux. Arre Morica, qui retrace, qui propose une fresque donc de l'armorique ancienne de l'époque, donc à la période des grandes invasions. Donc il va nous parler de la lutte contre César. Il va nous parler également plus tard de la christianisation. Et puis le tout aux couleurs du rock.
Voilà, on l'écoute un peu Arbard, surtout juste après, Julien, pour continuer à évoquer donc tout ce que tu as fait, parce qu'il y a aussi des voyages, il y a aussi des missions d'archéologie musicale. Hein, parler de ça. On ira faire un petit tour en Allemagne, à Cologne, je crois. C'est pas pour acheter de l'eau de Cologne, non, c'est pour toute autre chose. Puis en plus de ça, la relative nouveauté, c'est que maintenant tu te déplaces avec Audrey, donc ta compagne. Mais les enfants, il y a carrément des enfants. Ils vont partout.
Ils vont partout. Rappelle-toi, ils étaient déjà là lors de l'émission du printemps de la avec Alan Stivell.
Oui, ça.
Première rencontre grâce à toi d'ailleurs.
Ça date d'un petit moment. Oui, effectivement, je suis content que vous ayez gardé le contact et fait quelque chose ensemble. Ouais. Allez, on écoute Arbard, on se retrouve juste après.
France Bleu. Au terme de Gréoux-les-Bains, oasis de Haute-Provence, nous prenons soin de vos articulations, de vos troubles respiratoires, de votre santé. Chaîne thermale du soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier.
Et ben c'est une nouveauté, là, ce qu'on vient d'entendre, la Glaze, un morceau de Harbard, donc ton groupe, hein, Julien. Alors, Julien, quand il envoie des mails, c'est du sérieux. Julien Cuvillier, luthier, chercheur en archéomusicologie. Là, ça pose. Et puis également, ben, musicien aussi. Et puis là, réalisateur de clip. Alors, le clip, on peut le voir, on va sur YouTube, hein, on cherche Harbard, le titre c'est Glaze. Et particularité, c'est que c'est un clip de confinement.
Oui, complètement. Bien sûr, c'est pas mon métier. Donc, du coup, là, en l'occurrence, on était coincé et on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? On a beaucoup de confrères musiciens qui ont proposé à leur communauté des créations artistiques en temps de confinement pour leur apporter un peu d'oxygène et avec beaucoup de talent. Et on s'est dit pourquoi pas apporter notre contribution à tout ça. Et là où d'ordinaire pour un clip comme ça, on se fait entourer par des gens dont c'est le métier, par des professionnels. Et bien là, on s'est débrouillé tout seul et avec les moyens du bord. Et bien ma foi, on a tenté d'illustrer cette composition qu'on a appelée Glaze et aux couleurs des Côtes d'Armor.
Alors comment ça s'est fait ce tournage, avec quel matériel? On est en confinement, donc tu peux pas t'éloigner beaucoup.
C'est ça. Bah, d'abord la règle, c'est de rester à proximité de chez soi, comme le voulait la loi à l'époque. Et puis, bah, si possible, raconter une histoire onirique, apporter un petit peu de poésie. Donc on a été voir donc des acteurs locaux, donc des gens de notre village, Odile et Félix, qui se sont prêtés au jeu. Et l'histoire raconte, c'est une grand-mère en fait qui se plonge dans ses souvenirs. Le temps en écoutant en fait une boîte à musique et qui se rappelle d'elle, jeune, qui marchait dans la belle armorique et remontant le fil d'une rivière jusqu'à la mer pour aller donc retrouver son amoureux. Voilà. Et donc on a appelé ça Glaze. Alors Glaze, c'est un mot breton qui définit, on va dire, tout un nuancier de couleurs. Hein, on pourrait dire entre le vert et le bleu, c'est la couleur en fait qui illustre la rencontre du bleu du ciel et de l'émeraude de la mer. Donc très Côte d'Armor dans l'image. Et donc du coup, c'est quelque chose qui renvoie vraiment à la Bretagne, quelque chose que chacun perçoit à sa manière, qui est très poétique. Et donc du coup, c'est l'histoire de ce couple qui se retrouve à la mer pour faire leur propre couleur.
Voilà, et donc qui a été réalisé en respectant les règles du confinement, avec des gens du coin, tout le monde dans le même village.
Tout à fait, sauf le dernier jour, qui était le jour du déconfinement, voilà. Où on a été donc tourné à Trébordin. Tout le clip a été tourné donc sur Quimper, Bourbriac, le pays de Guingamp, donc vraiment très proche, avec une nature magnifique qui a été de la partie, heureusement, avec des plans de drone et puis différentes images en fait de notre belle campagne. Et le dernier plan à la mer, qui a été assez rodéo, puisqu'il fallait jongler entre les gouttes, entre la lumière, entre la marée qui montait, puisqu'on a joué sur un rocher qui, à marée haute, est immergé. Donc il a fallu aller vite et on est rentré avec les pieds mouillés.
Ouais, et si je me souviens bien, le jour du déconfinement, il faisait très froid. Beau, mais très froid.
C'est ça, très très froid. Ah, oui.
T'as bien choisi. C'était le bon jour pour avoir les pieds mouillés.
Il fallait aller très très vite et ça crachait en fait à Trébordin. Donc pour les caméras, c'est pas toujours très bon. Et il a fallu être efficace.
Voilà, en tout cas, le résultat, il est là, vous pouvez le voir sur YouTube. Hein. Il y a déjà pas mal de vues, hein, en fait. Hein, sur.
Ma foi, on frôle les 5000 vues en presque 3 semaines. C'est chouette, vraisemblablement, ça a bien plu. Et on est bien contents.
Alors, ce morceau donc s'appelle Glaze, on vient de l'entendre. Le clip, vous pouvez le voir sur YouTube, aucun problème. Mais ça nous amène donc à l'image. Et l'image, on va peut-être s'intéresser à un film. Alors, tu as fait la musique d'un film. Alors, parle-nous de ça, c'est encore une de tes aventures de l'année écoulée.
Tout à fait. Bah, disons que j'ai été donc sollicité par Sébastien Duhem, qui est réalisateur, ainsi que la compagnie de reconstitution des Ambiani, qui est une compagnie gauloise, qui se trouve en Picardie, et qui produit donc un film qui propose donc de découvrir la vie d'un adolescent qui passe à l'âge adulte en pleine époque où César arrive sur le territoire, donc une époque très contrastée et très compliquée, et une histoire qui est vraiment chouette et qui propose en plus donc de son aspect scénaristique une vision en fait qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait sous un axe en fait l'histoire sous un axe qu'on n'a pas l'habitude d'approcher d'une période qu'on aborde rarement en fait en tout cas avec sérieux de l'histoire et vraiment vraiment très chouette et ils m'ont fait du coup l'honneur de me confier à la composition de la bande originale.
Tu n'avais jamais fait ça?
Non.
Comment tu t'y es pris? C'est la première. On te fait une commande, il faut faire une musique pour un film, pour une histoire. La période, elle t'intéresse, hein, la période de l'histoire.
En plus, oui.
Bien, mais là, à partir de là, comment tu te débrouilles? T'es toujours chez toi, Quimper?
D'ordinaire, le problème ne se pose pas, puisque c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on nous sollicite pour des films ou des publicités ou diverses choses, où on nous demande d'utiliser des choses que nous avons déjà créées. Mais là, en l'occurrence, c'était un travail qui était inverse, et donc il s'agissait de composer, en fait, sur les images. Donc, du coup, c'est vraiment un travail en binôme qui se fait avec le réalisateur. réalisateur qui réalise donc du coup le film, qui va donc du coup monter les images, et moi de mon côté donc qui va illustrer musicalement en fait le propos visuel, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Ouais. Et là, la règle d'or, en fait, quand c'était imposé, c'était d'utiliser quasiment exclusivement des instruments reconstitués de l'époque. Donc, on peut entendre de la lyre, de la lance tintante, qui est donc un objet qui a été reconstitué grâce à l'archéologie expérimentale, également du carnix gaulois, qui est une grande trompe de guerre dont le son produit une musique entre le barissement de l'éléphant et le chant de baleine, donc c'est vraiment très beau. Et puis, bien sûr, du chant en langue gauloise, reconstitué avec l'appui donc de différents universitaires, notamment Jean-Paul Savignac, pour pouvoir donc retrouver des mots vieux de 2000 ans.
Est-ce qu'il y a effectivement de quelque chose de complètement inattendu, puisqu'on ne connaît pas ces sons, on ne connaît pas le son de ces instruments, on ne connaît pas cette langue.
C'est ça, voilà. C'est un travail de recréation. Alors, on ne connaît pas cette langue, oui et non, parce qu'il y a beaucoup de résidus de cette langue encore dans notre langue actuelle. La plupart des noms de poissons, par exemple, sont des mots gaulois. Carpe, truite, tanche, bah, tonneau, par exemple.
C'est pas un poisson, ça.
Oui.
t'as essayé de m'avoir, mais attends, je suis vigilant, moi, quand même.
Le tonneau sauvage. Donc il a fallu utiliser quand même tout ce répertoire de mots qui est quand même assez intéressant, qu'on retrouve à partir de plaques de défiction, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais qu'on retrouve également sur des listes d'armateurs, souvent dans des inscriptions qui sont en grec, sur des écritures grecques ou des écritures gallo-romaines, mais en langue gauloise. Donc ça, c'est assez intéressant et ça nous a permis de pouvoir donc faire des propositions de chants dans cette bande originale.
Dont on écoute un extrait ?
Alors, tout à fait. Je vous propose d'écouter donc Enter Brazelour, qui est donc la seule composition qui n'est pas en langue gauloise, mais qui est en langue bretonne.
Chut. Brazelour, ça veut dire quoi alors en fait
Le chemin de la guerre.
Le chemin de la guerre. Et donc ça figure dans la bande originale de ce film qui se balade un petit peu partout dans le monde.
Tout à fait. Il a été sélectionné et récompensé dans plusieurs festivals, notamment au festival du film archéologique de Londres. Il a reçu des awards aussi à Los Angeles. Il a reçu également des sélections à Toronto, à Montréal, à Bombay. Et il est actuellement où est-ce qu'il est? Il est à Istanbul en ce moment en projection.
Du coup, on sait plus où il est. Il voyage tellement ton film.
Alors, c'est pas le mien, c'est vraiment le.
Et tu en as fait la bande originale.
Ah, je suis bien content d'avoir participé à cette aventure.
Tu participes effectivement à ce. C'est une belle. J'imagine, faut être une belle. Un sentiment bien de chaleureux de savoir que le film reçoit plein de comme ça à travers le monde, plein de d'awards. Je ne sais pas si on dit des awards dans tous les pays, mais en tout cas, voilà, de récompenses, on va dire plutôt.
Bah, disons que c'est très chouette, parce que déjà, la première récompense, bah, c'est de pouvoir contribuer à un travail commun comme ça. C'est déjà une sacrée victoire d'aboutir à tout ça, parce que c'est, faut se rendre compte qu'il y a de nombreux métiers, il y a beaucoup de temps et beaucoup de travail collectif autour d'un film comme ça. Et le mener à son terme, c'est déjà une victoire en soi. Et en plus de tout le marché, de voir effectivement que le public est au rendez-vous, qu'il reçoit effectivement des récompenses et que ce travail est salué, c'est on pourrait dire la cerise sur le gâteau. Ouais.
Alors, je sais pas si c'est le gâteau forêt noire qui t'a inspiré, mais en tout cas, un moment ou un autre. Ouais, ça, c'est de la transition, ça a été bossé. Hein. 3 jours que je suis dessus. Hein. Te voici encore en Allemagne. Et en fait, tu vas à Köln, Cologne, en français. Qu'est-ce que tu vas y faire? Une mission scientifique au musée de Cologne. Raconte-nous.
Bon, là, je dois enlever ma casquette de musicien et je dois mettre ma casquette de chercheur.
Voilà.
Comme tu le sais, je suis à l'origine avec Audrey du pôle de recherche d'interprétation et d'archéologie expérimentale qui a été fondé en 2014 et qui réunit une quarantaine de chercheurs internationaux autour de l'étude des pratiques musicales de l'âge du fer et du Moyen-Âge. Donc chaque année, on dirige 1 à 3 missions un petit peu partout, en France principalement, mais aussi en Europe, afin de s'intéresser à des artefacts liés à la pratique musicale, les faire entrer dans le monde numérique pour les rendre accessibles à tous. Alors aussi bien dans des musées avec de nouveaux outils de médiation tels que des projecteurs holographiques, faisant que le visiteur n'est plus spectateur mais acteur du patrimoine, et également afin de le rendre accessible aux chercheurs, aux étudiants et faire avancer l'état des recherches tout simplement. Et en 2017, ça commence là. Et ça commence pas à Cologne, ça commence à Constance. Donc on est toujours en Allemagne. Et j'étais en train de faire une présentation avec Audrey et avec les loulous, ils étaient là, les enfants aussi. Et Barbara Teun me précise qu'il existe un objet qui est conservé dans les réserves du musée de Cologne depuis près d'un siècle, à l'abri des regards, et qui ne dispose d'aucune étude. Il n'y a qu'une photo de 1900, et c'est tout. Et cet objet, c'est le chevalet de Concevreux. Donc c'est un chevalet. Donc le chevalet, c'est un petit objet qu'on trouve sur certains cordophones, comme des violons par exemple, ou des lyres en l'occurrence. Et ce chevalet est en bronze. Alors encore assez rarissime. Hein. Il n'y en a qu'un seul autre exemplaire qui se trouve au British Museum avec tous les honneurs et les égards qui lui sont dus, avec exposition, études et tout ce qui va bien. Et celui-ci, eh bien rien. Alors tu penses bien que ça m'a piqué un petit peu. Ouais.
Tu dis c'est trop injuste pour le pauvre archer. Oh, bah, attends, je vais aller le mettre en pleine lumière.
Je veux dire c'est le Saint Graal, hein, c'est génial. Donc Vlatipa que quelques années plus tard, on réunit une équipe, une dream team, à savoir qu'elle est composée donc de Gaël Bourbouze, donc du CRT de Morlaix, qui avait déjà précédemment avec nous numérisé le buste du barde à la lyre au SRA de Bretagne, et qui avait également numérisé la Telenganta, donc la harpe d'Alan Stivell. Il y a également donc Laurine qui nous accompagne, Laurine Karavec, donc notre photographe. Également donc Romain Viala qui est le directeur du pôle innovation de l'Institut technologique européen des métiers de la musique, un type très passionnant qui est docteur en mécanique acoustique et qui nous a accompagnés donc pour ce projet-là, et Audrey et les enfants. Et la marraine des enfants pour nous aider.
Quand tu dis les loulous, ce sont des enfants.
Oui.
Tout le monde, il n'y a pas de bête sauvage avec Audrey et Julien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à Cologne, qu'est-ce que vous allez faire?
Eh bien, donc, du coup, rendez-vous est pris. On nous met en accès à la pièce, donc dans la Maison Royale de Belgique. Et à ce moment-là, donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet objet est magnifique. Hein, déjà, là, dans ta main, il y a 14 siècles qui te contemple. Donc, il y a une espèce d'aura assez forte qui se dégage déjà à la découverte de l'objet, et puis l'étude commence, donc du coup numérisation 3D, vibrométrie laser, donc qu'est-ce que c'est? Bien
oui,
simple.
C'est la question que j'avais posée.
Vibrométrie laser consiste à émettre différentes fréquences de son en direction d'un objet, et à l'aide d'un laser, on va mesurer en fait la réaction de l'objet, et en conséquence de sa réaction, on peut dresser la carte d'identité, le portrait robot de sa composition en fait. Et ça permet de savoir, donc sans avoir à prélever de morceaux de l'objet, de quoi il est constitué. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéressait, c'était, on savait que c'était un matériau ferreux, et en l'occurrence, avec du cuivre, et ce qui nous intéressait, c'était de savoir sa composition exacte, savoir, donc, en l'occurrence, pour le bronze, combien de cuivre, combien d'étain, etc. Donc là, cette technique nous a permis d'apporter des éléments de réponse grâce à une technique non destructive. Ça aussi, les nouvelles technologies, notamment issues de l'industrie, nous permettent d'apporter des solutions dans des domaines assez variés et assez exotiques, là, en l'occurrence, hein, pour pouvoir trouver pour apporter des éléments de réponse. Donc là, en l'occurrence, ça, également la conductimétrie, c'est-à-dire qu'on lui a passé un courant électrique et en fonction de sa conductivité, ça donne des indications par rapport à sa composition, et également sa masse conjuguée à son poids. Donc tous ces éléments permettent de converger vers un résultat qui nous donne, avec une assez grande précision, sa composition, permettant par la suite de le reconstituer.
Et ça a été fait, là, la reconstitution.
Tout à fait. Donc l'idée est donc du coup de le modéliser en 3D. Donc il a été donc imprimé dans un polymère de type plastique et reconstitué donc dans un processus de fonte à cire perdue pour pouvoir donc du coup le mettre à l'essai sur un instrument et renouer avec un son perdu.
Et donc récupérer un son qu'on n'avait jamais entendu depuis des siècles et des siècles.
Se rapprocher et comprendre pourquoi il était fait comme ça, qu'est-ce que ça apporte. Et grâce à des modélisations 3D, c'est très très intéressant. Ouais.
Le modèle original, tu l'as discrètement mis dans ta poche ou est-ce qu'il est resté
il est resté à Cologne.
D'accord, oui, je pensais bien, mais enfin, de toute façon, tu ne l'aurais pas dit. Hein,
si... Non.
De toute façon, on l'aurait pas su. Mais alors donc, tu veux pouvoir, et maintenant, puisque cet objet est modélisé, reconstituer le son sur une de tes lire à toi.
Tout à fait. Tout à fait, et c'est d'ailleurs donc du coup ce qui a été fait. Donc nous avons reconstitué une lyre pour l'occasion, donc qui est contemporaine de l'époque de cet objet, à savoir donc la lyre qui a été retrouvée dans la chapelle Saint-Séverin de la cathédrale de Cologne, donc carrément sur place. À savoir que l'objet lui-même a été trouvé sur le territoire français à Concevreux et date de la même période et dans le même royaume. Donc du coup tout à fait pertinent. D'un côté on a un chevalet qui a été retrouvé sans lyre, de côté une lyre sans chevalet. On a marié les deux.
Tout à fait pour se rencontrer. Bah,
tout à fait. Et ma foi le résultat est très intéressant.
Et il y aura une suite, ça c'est la première découverte si j'ose dire.
Ah bah, il y en a carrément une, puisque du coup il y a donc un travail artistique qui est en ce moment même en finalisation autour de ce projet-là.
Ah, je savais bien que ça allait pas s'arrêter là.
Ah bah attends, il y a de quoi s'amuser, donc il faut s'amuser sur tous les terrains.
Allez, on continue à écouter parce qu'on écoute, on parle beaucoup de musique, mais on écoute aussi de la musique, on écoute un morceau, on va dire de quoi il s'agit après, hein, et puis on se retrouve ensuite ensemble en direct, Julien Cuvelliel.
perspective.
Voilà, alors ce morceau qu'on vient d'écouter, j'ai failli dire quasi religieusement en compagnie de Julien qui est venu. Julien, bah, raconte-nous de quoi s'agit-il, quel est ce morceau ?
Eh bien, il s'agit de Celtica, qui est donc sur le dernier album d'Alan Stivell.
Human Celt.
Tout à fait.
Et pour être le lien entre toi et puis ce morceau.
Eh bien, Alan m'a fait le plaisir de m'inviter sur son album. Et en fait, il a repris le dernier morceau du mien, d'album, d'Arre Morica, des Hommes, des Rois et des Dieux, et l'a fusionné donc à ce morceau-là que vous venez d'écouter, et sur lequel on peut entendre effectivement des cantiques. Donc, quand tu dis religieusement, tu as bien fait de souligner ça, et dans lequel on peut entendre également la voix de Glenn Moore, d'Alan, ainsi que sa harpe. Voilà.
Voilà, donc c'est un morceau qui t'a touché, parce que le geste qu'a eu Alan t'a touché particulièrement.
Et la tension et la pièce en question, puisque il s'agit d'une ode à l'ancienne Celtia, l'ancienne Celtie, et il revisite de façon presque comme un voyage temporel l'histoire des Celtes depuis l'origine avec la harpe, en passant par l'Irlande, le Pays de Galles, tout ça, également Glenmore, la harpe. Donc c'est vraiment un carrousel du monde celte et de la musique, et dans lequel il m'a fait le plaisir de m'inviter, et c'est super.
Alors, on revient à tes aventures personnelles, avec donc ce petit chevalet dont tu nous as narré la destinée, et puis qui a débouché sur encore autre chose. Alors, nous voici au Musée Royal de Belgique.
Eh bien oui, le Musée Royal de Belgique m'a lancé un défi cet automne, de composer une musique qui serait donc une fresque musicale, onirique et historique pour peindre le temps de Clovis. Voilà, c'était ça donc le challenge. Et parce que du coup, c'est à l'occasion de leur nouvelle exposition qui s'appelle Le Monde de Clovis, pour laquelle ils voudraient donc une bande originale. Donc, le gant est jeté, défi relevé. Et j'ai réuni donc pour ce nouveau projet d'Arbar, j'ai réuni en fait une équipe de musiciens, d'instrumentistes internationaux, des gens d'Écosse, des gens de Londres, des gens de l'Université de Montpellier 3, des gens de Paris, pour pouvoir donc du coup, peindre cette fresque musicale. Pour illustrer ce temps qui est un peu particulier, le temps de Clovis, hein. Rome vient de tomber, on est dans le tourment, on est dans le chaos, et l'idée est de pouvoir de reprendre le Saint-Empire romain et de pouvoir aller de l'avant.
Comment fais-tu pour réunir tous ces gens qui viennent de pays différents avec en plus le handicap des confinements, couvre-feu et autres trucs joyeux comme ça?
Ça a été le challenge numéro 2, ou plutôt le premier. La difficulté, c'est que d'ordinaire, en fait, quand on fait un projet comme ça, on fait une résidence, on réunit tout le monde et puis on compose, on dirige, on enregistre et puis voilà. Et là, en l'occurrence, ce n'était pas possible. A fortiori en plus pour nos amis anglais et écossais, parce que déjà il y a le Brexit qui pose de gros problèmes, mais qui complique la tâche et ne va pas s'arranger a priori. Et puis cette histoire de coronavirus qui s'est en plus aggravée avec une mutation là-bas apparemment plus virulente. Donc ça a été compliqué. Il a fallu faire ça à distance. Et j'ai envie de dire un petit peu à l'image de Clovis, en d'autres temps et dans d'autres mesures. Eh bien, il a fallu faire face à un monde qui change et se réinventer en tant qu'artiste. Et voilà. Et ce qu'on su faire, donc, l'ensemble des acteurs de ce projet avec beaucoup de talent. Et je les remercie encore.
Alors, le projet, il est terminé ou il est encore en gestation ?
Le projet est terminé. Tout est dans la boîte. Donc, là maintenant, on est dans la phase 2 du projet, puisque d'abord, il y avait ce travail de composition qui va servir à illustrer donc les teasers pour la télé belge, pour la radio, et également pour tous les audioguides et les descriptifs en fait du musée. Pour l'exposition, donc l'exposition qui va d'abord aller au Musée Royal de Belgique à Marimont, puis au Musée d'Archéologie Nationale à Saint-Germain-en-Laye, une exposition qui a été réalisée à partir des collections du British Museum et également donc du Musée d'Archéologie Nationale, et donc du coup voilà, donc maintenant la phase 2 c'est le concert.
Alors donc, là on est dépendant de l'actualité, quoi, évidemment.
Eh bien, si tout se passe bien, ça se passera donc du coup le autour du 1er février. Avec une retransmission en direct à la télé belge et à la radio belge, en présence donc du coup de tous les acteurs du projet, c'est-à-dire donc du coup John Kenny et Patrick Kenny, ainsi que...
Alors, dis-nous de qui il s'agit.
Alors, John Kenny, comment le décrire ? Il faudrait une émission entière, hein. Patrick aussi.
Non, dépêche-toi, il est 17h50.
Donc, Patrick et John, eh bien, sont des trombonistes, de grands trombonistes, ils enseignent à l'Académie Royale de Londres et d'Édimbourg, et surtout, ce sont des pionniers qui jouent du carnix, en fait, la fameuse trompe des Gaulois, la trompe de guerre, et sont les premiers en 2000 ans à avoir soufflé dans une trompe gauloise, quoi. Donc, et c'est eux qui donc interviennent dans ce projet-là. Et il y a également donc
John Kenny, il a joué dans pas mal de quoi, semble-t-il aussi.
Hein, ah bah il a joué dans 68 pays.
Ouais, c'est pas mal. Hein.
Il a joué avec Frank Sinatra.
Il a pas joué du Carnix avec Frank Sinatra.
Non.
Du trombone. D'accord. Non, j'aurais été étonné. J'aurais bien aimé un crooner avec une trompe gauloise.
Ah,
mais non.
C'est un petit CD de Noël, un petit vinyle de Noël au Carnix.
Ouais, pourquoi
ça
pas.
Peut être pas mal. Mais non. Et donc du coup au trombone, il y a également donc des chanteurs grégoriens. Pour la plupart de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, notamment Lou, notamment Clément, notamment Jean-Paul, notamment Brice et Maxime, pour donc du coup nous accompagner dans cette illustration de cette époque. Alors la grande difficulté, c'est que cette époque, on a peu d'informations sur la musique écrite, donc on a des objets, on a des instruments, mais peu d'informations sur la musique écrite. Alors que ça ne tienne, quand l'histoire nous apporte pas d'éléments, l'art prend le relais, et donc du coup l'histoire de cette composition va proposer une fresque avec deux acteurs principaux, que sont le dragon et la colombe. D'ailleurs, le nom de l'ensemble que j'ai constitué s'appelle comme ça, The Dragon and the Dove, donc le dragon et la colombe. Et c'est un dialogue musical qui propose donc entre le dragon qui incarne le temps ancien qui se meurt et qui est à l'agonie et qui est donc incarné par le Carnix, et de l'autre côté, la colombe qui est donc le futur avec le chant grégorien qui renvoie vers la sacralité du chant chrétien médiéval. Voilà.
La composition, est-ce que c'était une composition qui était faite de manière collective ou individuelle, uniquement par toi, comme tu avais fait par exemple pour la BO du documentaire dont on parlait il y a quelques
minutes? Alors, on va parler d'une composition, on va parler d'un réaménagement également, parce qu'il s'agit surtout d'une pièce en fait qui existe, qui s'appelle Terribilis Est, qui est donc une très ancienne pièce grégorienne, et que nous avons réaménagée pour l'occasion. Et du coup, moi j'ai dirigé cet ensemble avec les différentes interprétations à distance. Donc moi je me suis occupé de la direction et de la composition. Ouais.
Là, c'est le début d'une aventure. C'est la fin de cette aventure-là, puisque il y a plus que le matériel a déjà été enregistré. Il n'y a plus qu'à faire effectivement le concert. Mais où est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce que à chaque fois, tu rencontres des gens, tu fais des rencontres qui, c'est un petit peu comme le billard en fait. Hein, ça fait des ricochets.
De rencontre en rencontre.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Donc du coup. Est-ce que c'est pas ça la vie quelque part? De rencontre en rencontre, les choses évoluent, les choses avancent, ouais, tout à fait. Donc là, en plus, la particularité, c'est qu'on a une approche transversale de notre métier qui touche à la science, à l'artisanat, à l'art. Donc les possibles sont nombreux et les occasions aussi. Donc là, en l'occurrence, on est parti au Moyen-Âge, ce qui était, j'ai envie de te dire, une direction dans laquelle je n'étais pas allé encore jusqu'à maintenant sur le terrain de la composition et de l'univers artistique. Harbard était plutôt resté sur le terrain de l'Antiquité et du rock. Et là, donc, c'était une super occasion. D'ailleurs, le projet Harbard, on peut pas le résumer en un groupe, c'est un univers artistique protéiforme qui évolue dans de nombreux styles et qui a objectif de rendre toujours plus actuelles les musiques ancestrales et natives, et par de nombreux moyens, la production de spectacles, de compositions, d'albums, ou là, en l'occurrence, de bandes originales, de films ou d'expositions. Donc du coup voilà, donc là effectivement superbe aventure, de très belles rencontres, de très bons musiciens, et qu'on va avoir prendre plaisir à vous faire découvrir, que ce soit par la bande originale ou que ce soit par ce concert qui sera retransmis en direct, nous l'espérons, en février.
Voilà, on croise les doigts pour qu'effectivement ça ait lieu. Sinon, il sera reculé, mais en tout cas, il aura lieu.
Oui, il aura lieu.
De toute façon. Tu m'avais dit, hors antenne, qu'il y a l'année dernière, précisément, cette époque-ci, tu n'aurais pas pu venir à une de mes émissions parce que tu étais en Afrique. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme rencontre? Tu n'as quand même pas trouvé des Celtes en Afrique?
Eh ben, oui, j'étais au cœur du désert de Zagora, donc du coup, au Maroc, et j'étais sur un campement, et j'avais emmené ma lyre d'ailleurs. Et là-bas, je me suis fait accueillir par un berbère qui m'a parlé en breton. Incroyable.
Il n'y a que toi qui peux trouver un berbère qui parle breton.
Figure-toi qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre la culture bretonne et la culture berbère. Et également dans le combat qu'ils ont pour revendiquer leur culture traditionnelle au sein de leur propre pays. Et ça, c'est quelque chose qui est très chouette. Et du coup, partout, on disait, vous êtes français, vous êtes français. Non, on n'est pas français, on est breton. Ah, c'est pas pareil. Et là, le thé pleuvait. Et les tagines aussi.
Bien, c'est encore des voyages où on maigrit, ça.
Ah oui,
c'est
clair. Voilà.
On arrive au terme de cette rencontre. T'as quelques secondes pour nous expliquer. On va terminer en écoutant un morceau qui s'appelle Luskelleres. L'histoire pour toi de ce morceau avec lequel on va terminer.
Alors du coup, c'est un morceau qui me tient bien à cœur, puisque C'est le, c'est notre premier clip avec Audrey. C'est un duo en fait. Et on a une histoire qui a été faite également avec une compagnie gauloise qui s'appelle Arémorica et Taouta Sismi, qui sont sur le territoire breton. Et une histoire de famille, vraiment, voilà. Et le texte en fait est une Los Caleres, une berceuse bretonne qui m'a été transmise par la chanteuse Anne Offrette, harpiste, et que j'ai réadapté en fait avec l'aide d'Henri Lenaou, voilà, pour que le texte colle un peu plus avec le propos que je voulais aborder.
Voilà, c'est avec ce morceau donc qu'on va se séparer. Merci Julien Quilliez d'être venu passer un petit moment de l'après-midi avec nous. À 18h, ce sera les infos. N'oubliez pas ce soir la rencontre PSG-Brest commentée en direct en intégralité par le talentueux Nicolas Blanza. C'est à partir de 21h, donc en direct bien sûr. Très bonne soirée à toutes et à tous. Moi je vous retrouve si vous le souhaitez dès demain matin dimanche à partir de 10h. Kenna, ciao.
Bart sur France Bleu Brésil.